J'ai revu totalement ce qui
se passe.
Nous allons passer ensemble près de 60 minutes d'échange et de débat sur un sujet qui vous intéresse. Il y a plus d'une semaine, le cardinal Laurent Mossengo, au cours d'un point de presse, a donné son avis sur le mode de scrutin présidentiel. L'archevêque de Kinshasa estime que le scrutin a un tour soulève des questions sur la légitimité du chef de l'État élu, au moment où, par exemple, il est élu à 20%. Ce point de vue continue à susciter diverses réactions au sein de la classe politique congolaise. Pour certains politiques, un religieux ne devrait pas donner un point de vue au risque d'afficher une couleur politique et violer la règle de neutralité liée à sa fonction, tandis que pour d'autres, le religieux en tant que membre de la société civile a un rôle primordial à jouer. Ce point de vue divergent ouvre les débats. À votre avis, les confessions religieuses ont-elles un rôle à jouer dans le processus démocratique? Nous aurons tour à tour comme invité le professeur André Lubanga, vice-doyen chargé des recherches à la faculté de sciences sociales, politiques et administratives de l'Université de Kinshasa, et le professeur Mbouba Kalala, analyste politique et également professeur des sciences politiques. Cécile Poutou, Thierry Lamézi, sont à la réalisation de cette émission. Alain Boy à la mise en onde, à la présentation, Marie-Chantal Zumba, soyez tous les bienvenus.
Parole aux auditeurs par internet ca@radiookapi.net.
Notre premier invité est déjà en ligne. Bonjour, professeur.
Bonjour, madame.
Comme je l'ai annoncé, c'est le professeur André Lubanga, vice-doyen chargé des recherches à la faculté des sciences sociales, politiques et administratives à l'université de Kinshasa, et avec vous, nous allons passer près de 30 minutes parce que nous aurons deux invités. Les 30 premières minutes, ce sera avec vous, et les 30 dernières minutes avec notre second invité. Je rappelle nos contacts à nos auditeurs, ceux qui veulent participer à l'émission, c'est le 081 890 69 69 081 890 69 69, ou nous écrire à l'adresse internet pa@radiookapi.net. Professeur Lubanga, aujourd'hui nous parlons du rôle des confessions religieuses dans le processus démocratique. Il faut avoir l'avis des auditeurs au regard de ce qui s'est déroulé en RDC, les réactions qui suscitaient suite au point de vue du cardinal Laurent Mossengo. Professeur, dites-nous, pour avoir une vue d'ensemble, dites-nous quel est le rôle premier des confessions religieuses.
En fait, d'abord, le premier rôle des confessions religieuses, c'est gérer les églises et puis amener leurs fidèles à avoir une grande foi en Dieu, parce que leur fonction première, c'est celui de renforcer la foi de leurs fidèles. C'est ça le premier rôle.
Mais comme en tant que membre de la société civile, que peuvent faire les confessions religieuses?
En tant que société civile, il faut faire remarquer d'abord que les églises n'interviennent que pendant les moments de crise. Parce que pendant les moments de crise, même les syndicats, même toute autre organisation de la société civile peut intervenir dans le domaine politique. Et donc les églises, pendant cette période-là, peuvent intervenir pour porter haut la voix de la population, parce que vous savez que les églises encadrent des milliers de personnes, et donc leurs pasteurs, leurs prêtres peuvent être le porteur de leur voix. Et donc, les églises peuvent bien porter la voix, présenter les revendications de la population auprès des décideurs politiques.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un certain niveau, cela peut influencer certaines décisions ou positions des fidèles?
Tout à fait, cela peut arriver que les fidèles soient influencés ou perçoivent mal l'intervention de leur pasteur dans le domaine politique, mais qu'est-ce que l'Église en tant que société civile peut faire? Elle ne va pas rester quand même indifférente si la population qu'elle encadre spirituellement est dans la misère. L'Église doit se lever et présenter les revendications de la population, présenter les exigences de la population auprès des décideurs politiques.
Nous allons suivre l'avis de Polybé, de Kindou, Théodore, de Mbujimé, puis nous allons revenir à vous, professeur André Lubanza. Je rappelle nos contacts, le 081-899-6969, pour nous écrire à l'adresse internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Polybé, bonjour.
Bonjour madame, bonjour.
Oui, vous êtes à Kindou, et à votre avis, les confessions religieuses ont-elles un rôle à jouer dans le processus démocratique?
Ah oui, les confessions religieuses ont un rôle vraiment important à jouer.
Mm-hmm.
Et surtout que ce sont les confessions religieuses qui encadrent et qui connaissent ce que les populations veulent à tout moment. Mais ce que moi je dois dire, c'est que la position du cardinal est meilleure. Donc, le cardinal doit savoir que, même au niveau de l'Église catholique, il n'y a pas de démocratie. C'est bien de demander à ce que, pourquoi les élections du premier tour, pourquoi les élections au 16e tour. Bon, le président de la République est encore jeune. Il a encore de l'avenir. Le président sait que devant lui, il y a encore un bon bout de temps et il est très mal entouré. Bon, il doit toujours vouloir rester même éternellement au pouvoir. Le cardinal a lutté depuis les années 90 jusqu'à maintenant, il n'y a pas de solution. Il devrait se faire et peut-être chercher à trouver une solution à l'Église qui est parmi. Bon, je me permets de dire ça en débattre aujourd'hui à cause de la montée vertigineuse des églises de réveil. C'est le truc que les cardinals pouvaient faire au lieu de s'embrouiller dans les discussions du type premier tour.
Non, à votre avis, les religieux ne peuvent pas donner leur point de vue sur une situation politique.
Ils peuvent donner leur point de vue dans les pays où on les écoute. Et quand ils ne sont pas écoutés, il faut être un religieux qui est de l'air. Hein? Ngoï Moulunda, Malumalu, tous ceux qui sont de l'air. Parce que si vous n'êtes pas de l'air, vous ne serez jamais écoutés. Et un jour, on va clasher sur les cardinals, ça ne va pas.
De votre point de vue, merci Polybé d'avoir donné votre avis sur les antennes de Radio Capi. Nous allons bouger. Mais bonjour Théodore.
Bonjour.
Vous avez suivi votre prédécesseur Polybé qui estime si un religieux devrait se taire, surtout s'il n'est pas très écouté, ce que pense Polybé. Mais quel est votre avis, Théodore?
Dans mon avis, je trouve bien que tous les pasteurs dans les églises confessionnelles, les églises de réveil, tous ces pasteurs qui avaient postulé depuis 2006, ils sont au Parlement national, au Parlement provincial, nous avons des tristes mémoires, nous avons des choses. Aujourd'hui, rien n'a évolué au niveau social. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, quand nous voyons Vatican, par exemple, l'Église catholique, qui arrive à voir les choses dans le sens du progrès social, quand nous voyons le progrès social, nous voyons la population. Cette population qui est privée de toute nécessité, les choses qui sont nécessaires, les routes de terres agricoles, la voie ferrée inexistante, beaucoup de choses dans la politique. Et si nous voulons bien les hommes politiques, les religieux, les pasteurs, qui peuvent arriver à résister, à dénoncer la chose face au monde. C'est pourquoi nous nous sommes pour l'Église catholique qui est vraiment encouragée à dénoncer la chose pour qu'il y ait un changement dans notre pays.
Donc vous estimez que plus il y aura des responsables des confessions religieuses en politique, cela pourra améliorer certaines situations que vous décriez?
Oui, pas plus, pas toutes ces églises de réveil non plus. Nous avons les églises, les hommes courageux, c'est l'Église catholique. Le Vatican, celui-là est très fort. C'est pourquoi nous encourageons, nous voulons bien que ça aille de l'avant pour mettre autour de nous, de nous, tous ces gens qui sont en train de faire souffrir la population dans ce qui concerne les progrès sociaux. Tout est à l'arrêt. les choses n'évoluent pas.
Merci Théodore. À partir de Mbujimayi, je rappelle la fréquence de Mbujimayi 93.8. Et nous revenons à Kinshasa. Bonjour Emma.
Bonjour.
Emma, quel est votre avis?
Oui, écoutez, je vais d'abord commencer par contredire quelque chose sur ce que le premier intervenant vient de dire, qui est le cardinal devait se taire. Je ne sais pas pourquoi il a prévu cela. Le cardinal a joué son rôle en tant que grand pasteur. Moi, mon souci, c'est que il faut que Dieu pose sa main sur la République démocratique du Congo et qu'il ait pitié de son peuple. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, et ce n'est pas ce qu'on pensait qu'il fallait être un jour. Vous savez, ça fait 11 ans que le président de la République est au pouvoir. Et dans 11 ans que le chef de l'État est au pouvoir, donc rien de bon ne s'est passé ici. Donc tout est difficile, sur tous les plans. Alors c'est aujourd'hui, où après avoir passé 11 ans au pouvoir, on nous dit qu'écoutez, il n'y a pas de moyens pour organiser les élections à deux tours. Il n'y a pas de sécurité. Pourtant, c'est chaque fois que le président de la République, dans son discours, il n'avait jamais évité de dire que la sécurité est là. Donc, à l'est, tout est stable. Les vidéos où on a fait même dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de moyens. Chaque fois, on a soulevé le problème de billets, c'était 7 milliards. On a dit que c'était le plus grand billet. Alors aujourd'hui, il y a un problème d'épidémie. Alors, des moyens plutôt. Pour moi, je pense que c'est un gouvernement irresponsable.
Oui, s'il vous plaît, Marc, s'il vous plaît, Marc, vous soutenez le fait que les religieux puissent donner leur point de vue sur le processus démocratique ou bien tout ce qui se passe sur le plan politique dans le pays. Mais revenons à la question, qu'est-ce que les confessions religieuses peuvent faire de plus dans le processus démocratique pour que cela puisse amener un changement?
Pourquoi ne pas intervenir? Pourquoi ne pas intervenir? Il faut que l'Église intervienne. L'Église doit nécessairement intervenir dans les problèmes politiques. Parce que si l'Église n'intervient pas, qu'ils vont intervenir. Si l'Église intervient, c'est pour que les choses reviennent quand même dans une bonne allure. Alors, les choses ne vont pas normalement. Alors, le problème est qu'on ne veut pas avoir un président de la République. Bien sûr, c'est qu'on nous a dit qu'ils ont adopté au Parlement. Bien sûr, mais ça, c'est une dictature, madame Mathieu Chantalumba.
Mais ça a été voté, adopté, et c'est la, s'il vous plaît, Emma, c'est la majorité qui a adopté. Bien sûr, l'opposition n'a pas participé, la grande partie des opposants n'ont pas participé à ce vote. Nous n'allons pas revenir là-dessus.
Mais écoutez, une chose est certaine, oui. Ce n'est pas ça la logique des choses. C'est pourquoi je dis que c'est une dictature sous une autre forme. Cette dictature qu'on a vécue à l'époque, Mobutu, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Vous savez, une chose est certaine, madame. Mobutu, c'est quoi? Ouattara n'a pas dirigé tel ce pays. Mais un jour, Mobutu a été vomi. Il a été rejeté par ce propre ministre. Et c'est ce que le président Kabila doit savoir. Et ça, je l'ai dit avec respectueusement, avec un fair play, le président Kabila doit savoir que Mobutu a été abandonné, vomi par ses propres ministres. Un jour, ceux qui l'entourent, M. Mende, M. Bouchab, un jour, ils pourront abandonner le président Kabila.
S'il vous plaît, nous allons vraiment éviter de citer les noms des personnes. Emma, merci beaucoup pour votre intervention. Vous soutenez le fait que l'Église et les confessions religieuses ont un mot à dire dans la gestion de la société, donc de la politique. Nous vous remercions. Nous allons au centre du pays, à Kananga. Bonjour Mathieu.
Oui, bonjour Madame Chantal.
Vous-même, vous êtes religieux. Est-ce que vous pensez que vous avez un rôle à jouer dans le processus démocratique?
Merci Madame. Attention, prophète, tout le monde me connaît en tant que prophète. Moi, je vous dis ceci, Madame. Toutes les pouvoirs que nous sommes en train de traverser dans ce pays, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, nous avons la majorité des soi-disant politiciens qui n'ont pas la culture politique. Pour eux, l'un de l'objectif, c'est d'avoir l'argent en utilisant le mot population en mensonge pour utiliser les intérêts privés. Nous, les prises, madame la journaliste, nous sommes rejetés par les politiciens. En fait, cette politique pratiquée par les politiciens qui est exclusion. Quand ce soit rappelé
de la popularité de la population.
S'il vous plaît, monsieur, lorsque vous dites que vous êtes rejeté par les politiciens, que vous ne pensez pas que c'est un peu fort parce que nous avons connu, par exemple, au moment de la conférence nationale souveraine, un président de la conférence nationale qui était religieux, même la CEI a été dirigée par un religieux. Lorsque vous dites que vous êtes rejeté, est-ce que ce n'est pas un peu trop fort?
Madame, ce n'est pas l'église catholique et l'église protestante. Il y a aussi l'église des réveils. Nous, nous sommes l'église des réveils, nous sommes rejetés. Quand je vois des appelés, c'est l'église qui est la popularité de la population. Et est capable de rapporter tout à fait à l'intérêt par d'autres formes de procès. Je pense que vous avez justement à Tunisie.
Mais aussi, s'il vous plaît, Mathieu, mais aussi au Parlement, il y a des élus, des pasteurs qui ont été élus et qui siègent actuellement, que ce soit à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Ce sont des pasteurs qui ont des positions en soutane. Nous, les positions en tant que tels, ce ne sont pas des élus.
Mais j'espère que quand même, il faudrait quand même un peu de respect. Personne, donc, vous n'appréciez pas peut-être le travail qu'ils sont en train de faire, mais s'il vous plaît, il faudrait quand même avoir un peu de courtoisie à l'égard de ces personnes.
Je t'ai promis, et puis je continue. Nous, les petits de madame, nous ne voulons pas encore voir cette petite plonge en fait et en fond.
Mais à votre avis, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider à ce que le pays, comme vous le dites, ne puisse pas retomber en pleurs et en sang, comme vous le soulignez?
On nous propose que la communauté internationale nous assiste. Hein. Si nous assiste pas, moi je crois que nous allons vivre une socialité ici au Congo, bravo à Tala. C'est possible. Nous, c'est ce que nous ne voulons pas.
Merci beaucoup Mathieu, c'est ce que vous pensez, vous avez donné votre point de vue. Et d'ailleurs, il faut aussi ajouter que même le nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante, il y a même le pasteur Moulunda qui fait partie de ce bureau, donc les religions ont quelque chose. Mais vous avez donné votre point de vue et nous vous remercions à partir de Kananga. Il y a Prince Kiangi. Qui nous écrit à partir de Walikale à traverser à @radiocapi.net. L'Église a un grand rôle à jouer dans le développement et la reconstruction de notre pays et tant que le pays sera dirigé par ceux qui ne croient pas en Dieu, des gens qui ne craignent, qui craignent de faire le mal, ce malheur pèsera toujours sur nos épaules. Le changement doit s'inscrire dans cette ligne et l'Église ne doit plus rester en marge, mais elle a l'obligation de s'impliquer jusqu'à occuper la magistrature suprême. Ce serait le début de notre bonheur. Dans le cas contraire, nous n'espérons rien du tout. C'est Prince Kahangi de Walikale qui nous a écrit ce message.
Parole aux auditeurs.
Et nous revenons à notre invité, le professeur André Lubanza. Il est vice-doyen chargé des recherches à la faculté des sciences sociales, politiques et administratives de l'université de Kinshasa. Professeur, j'espère que vous êtes toujours en ligne.
Oui, madame, je suis en ligne.
Vous avez suivi nos auditeurs, leurs avis, ce qu'ils pensent de la contribution des confessions religieuses sur le plan politique et aussi ceux qui estiment que ça ne vaut pas vraiment la peine. Quelle est votre réaction au regard de tous ces avis, professeur?
Bon, d'abord, je voulais dire que l'Église qui doit porter la voix des fidèles ou de la population d'une manière générale doit être écoutée comme le premier intervenant l'a bien dit.
Mm-hmm.
Parce que je ne sais pas si dans notre pays, je ne sais pas s'il y a des études qui ont été effectuées pour savoir si l'opinion qui est mise par un pasteur est celle de ses fidèles. Et même quand le cardinal a parlé, je ne sais pas si tous les catholiques se reconnaissent dans ce qu'il a dit. Ça, c'est la grande question que l'on peut se poser. Est-ce que l'opinion de l'Église ou c'est tout son opinion personnelle? C'est ça la grande question qu'on doit se poser et on doit essayer de savoir ce qui en est au juste. Alors, entre les deux, il faut aussi remarquer que il y a l'Église catholique d'une part, et d'autres églises, c'est-à-dire les églises protestantes et même les églises dites des réveils. Mais quand on observe la situation qui se passe dans notre pays, on se rend compte que seule l'Église catholique est vraiment engagée dans ce processus de démocratisation. Et depuis 90, et même bien avant, vous savez, toute la lutte que le cardinal Maloula avait menée dans ce pays, seule l'Église catholique paraît être engagés dans cette
situation,
alors que les autres églises semblent être passives.
Mais il y a aussi d'autres confessions religieuses, par exemple, à l'époque de l'enrôlement et l'identification pour le référendum, les églises, les confessions religieuses ont participé activement, à part l'église catholique et les églises de réveil.
En fait, je ne sais pas de quelle manière elles ont participé à cela, mais participer à l'enrôlement ne signifie pas participer au processus de démocratisation, parce que participer à la démocratisation, c'est défendre les valeurs démocratiques. Ce n'est pas seulement demander aux gens d'aller se faire sans savoir au bout quel type d'élection on aura, qu'on va dire qu'on participe aux élections, au processus démocratique. Donc, c'est défendre d'abord les valeurs démocratiques. Vouloir que les intérêts de la population soient pris en compte par les décideurs politiques. C'est de ça que je veux parler.
Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque que les croyances d'une certaine religion, ou plutôt d'une certaine religion, puissent aussi influencer la politique? Parce qu'il y a par exemple Prince Karangi qui estime qu'il faudrait nécessairement que les politiques soient vraiment des croyants et qu'ils ne croient pas, que des politiques qui ne croient pas en Dieu, ce ne sera pas facile pour eux de pouvoir gouverner.
Bon, je ne sais pas si tous les dirigeants qui ont développé leur pays sont nécessairement des croyants. Parce qu'on voit des gens qui prétendent être des croyants quand ils accèdent au pouvoir. Il y a même un de vos intervenants qui a dit qu'il y a des pasteurs qui sont au Parlement, mais on ne sent pas leur présence. On ne voit pas comment ils interviennent pour défendre la population. Donc ce n'est pas le fait de se dire que pasteur ou prêtre qui suffit pour qu'on dise que les religieux ou participent vraiment à la démocratisation ou représentent les intérêts de la population.
Et aussi, c'est parce que nous allons prendre avec vous 30 minutes, il vous reste presque 6 minutes, mais dites-nous pour vous, pour une conclusion, quel serait vraiment le rôle indiqué pour ces confessions religieuses dans le processus démocratique? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez donner comme conseil ou bien votre avis sur le plan scientifique, d'autant plus que vous êtes vice-doyen chargé de recherche à la faculté des sciences sociales, politiques et administratives, donc vous réfléchissez sur la façon, la manière de pouvoir trouver des méthodes politiques, et à votre avis, quel est le rôle de choix, la place de choix des confessions religieuses dans ce processus démocratique?
Je voudrais dire que il ne faut pas voir le rôle de l'Église dans un seul sens, c'est-à-dire porter les intérêts de la population. Mais l'Église doit aussi expliquer à la population le bien fondé des décisions politiques. Quand les décideurs politiques prennent des décisions, prennent des résolutions, l'Église doit aussi expliquer à la population quel est le bien fondé de telle ou telle mesure politique dans le bien-être de la société. Parce que l'Église ne doit pas seulement présenter les intérêts de la population, présenter les revendications, mais aussi travailler pour les dirigeants politiques, parce que l'Église est intermédiaire en tant que société civile. Ils ramènent au niveau des décideurs politiques les revendications de la population, mais ils expliquent aussi à cette population, parce qu'ils ont l'occasion d'encadrer, de mobiliser des masses et des masses de personnes, d'expliquer le bien fondé des décisions politiques. Tout cela pour la paix sociale, pour le progrès et pour le développement.
Merci, professeur André Lubanza, d'avoir participé à cette émission. En gros, l'Église ne doit pas seulement dénoncer ou décrier, mais aussi sensibiliser et encadrer la population, les fidèles sur ce qui se passe en politique. Je rappelle que vous êtes vice-doyen chargé de recherche à la Faculté des sciences sociales, politiques et administratives de l'Université de Kinshasa.
Parole aux auditeurs.
Découvrez les après-midi de Radio Okapi de lundi à vendredi à partir de 13h. Des recettes, des reportages sur la vie quotidienne, des paroles d'enfants, des rubriques femmes et des balades zigzags. Et enfin, un brin de culture, c'est en découverte. Un rendez-vous Radio Okapi pour des après-midi promeneurs. Découverte, de lundi à vendredi, à partir de 13h, heure de Kinshasa.
Nous poursuivons parole aux auditeurs et l'émission de ce jour est centrée sur votre avis sur les confessions religieuses, le rôle des confessions religieuses dans le processus démocratique. Il y a cela plus d'une semaine, le cardinal Laurent Mossengo, au cours d'un point de presse, a donné son avis sur le mode de scrutin présidentiel. L'archevêque de Kinshasa estime que le scrutin à un tour soulève des questions sur la légitimité du chef de l'État élu, par exemple au moment où il est élu à 20%. Ce point de vue continue à susciter diverses réactions au sein de la classe politique congolaise. Pour certains, politiques religieux ne devraient pas donner un point de vue au risque d'afficher une couleur politique ou violer la règle de neutralité liée à sa fonction, tandis que pour d'autres, le religieux, en tant que membre de la société civile, a un rôle important à jouer. Et la question, à votre avis, les confessions religieuses ont-elles un rôle à jouer dans le processus démocratique? Nous avons André Matia au bout du fil. Bonjour.
Ah, bonjour, Madame Chantal.
Oui, de Matadi, quel est votre point de vue?
Mon point de vue, Madame Marie-Chantal, est telle chose. D'abord, les églises. Les églises, en tant que telles, font partie de la société civile.
Mm-hmm.
Donc, en tant que citoyen d'un pays, en tant que citoyen d'une communauté donnée, les religieux ont un point de vue à émettre sur la marche de la communauté. Parce que la politique elle-même se conçoit comme la direction des affaires de la cité. Et les religieux, en tant que membres de la cité, ont le droit de donner leur point de vue sur la marche de cette cité. Parler de la neutralité, tous ceux qui sont passés avant et qui ont évoqué la neutralité des hommes, des religieux face aux questions politiques, moi je crois que c'est passé à côté de la question. Parce que lorsque une communauté, lorsque une société brûle, c'est-à-dire, je donne un exemple, on tue les gens dans tel milieu, on est en train d'égorger les gens. Donc les églises doivent rester neutres parce que les hommes politiques sont en train de tuer les gens, de brûler les villages, il faut que les églises se taisent. Moi je crois que c'est non. Le rôle, parce que les religieux, les églises en fait, constituent les remparts même de la société, donc la conservation même de toutes les valeurs d'une société. Et au nom de quoi aujourd'hui les hommes politiques pourraient dire que les religieux doivent rester neutres face à une situation donnée? Lorsqu'une société est en danger, c'est tout à fait normal qu'une conscience se lève. Et l'incarnation de cette conscience, effectivement, c'est la société civile et donc les églises aussi. Mais les hommes politiques ne doivent pas se réfugier derrière cette neutralité. Surtout les hommes politiques congolais qui veulent faire de la politique congolaise comme étant leur chasse gardée. En disant qu'il n'y a que les politiciens qui doivent se prononcer sur la marche du pays. D'abord, ils parlent au nom de qui? Ils parlent au nom de la population, c'est-à-dire s'ils sont élus. Donc, ils doivent refléter le point de vue de la population. Mais quand ils ne reflètent plus le point de vue de la population, donc ils ne parlent plus au nom de cette population, et de ce fait, la population, la société civile, et donc les églises aussi, doivent se lever pour dire non, vous ne reflétez plus le point de vue de la population, et il faut que ça s'arrête. Il ne faudrait pas qu'ils fassent de la politique une affaire de chasse gardée ou une affaire de profession. Il n'y a pas de politiciens professionnels. Malheureusement, c'est ce qui est en train de se constater au pays, des chômeurs qu'on ramasse ça et là au Congo, qui remplissent les rangs des partis politiques et ils veulent prendre toute la population en otage. Le cardinal Mossengo a tout à fait raison, parce qu'on ne peut pas se dire qu'on est en tout un président qui représente, je ne sais pas, 10% de la population, 15%, cela ne peut se concevoir dans aucune démocratie. J'insiste bien dans aucune démocratie à travers le monde.
Mais n'oublions pas, André, que la démocratie, c'est aussi la loi de la majorité.
Oui, c'est la loi de la majorité, mais en fait, une majorité, ce soit, c'est pas une minorité. C'est vrai qu'en démocratie, on respecte aussi les points de vue de la minorité, mais c'est d'abord les points de vue de la majorité. Qui dit majorité, ce n'est pas seulement la majorité au pouvoir, mais la vraie majorité, c'est une large partie de la population que vous êtes censé diriger. C'est ça.
La majorité des électeurs.
Oui, la majorité des électeurs, c'est ça la vraie majorité. Et si vous faites, je vous mets au défi, madame la journaliste, et tous les auditeurs qui nous suivent à travers tous les pays et à travers le monde, faites le tour de toutes les provinces du Congo aujourd'hui, allez poser la question aux électeurs. Si ce que les députés disent aujourd'hui, quand ça fait qu'il y ait de cette question, si ce que les députés disent, la population est d'accord, la population vous dira non, ce n'est pas au nom de cela que nous vous avons délégué. Et ces populations aujourd'hui sont en train de, ces députés plutôt aujourd'hui, sont en train de se battre au nom de leurs propres intérêts égoïstes et non plus au nom
de la vraie majorité, la majorité réelle, qui est une bonne partie de la population.
André,
oui, les points de vue peuvent être reflétés aussi par des religieux.
Laissons ce sondage, il y a des institutions qui sont vraiment assez compétentes, qui peuvent peut-être réaliser ce sondage-là. Mais nous vous remercions pour votre participation à partir de Matadi. Bonjour Victor.
Oui, bonjour.
De Kinshasa, quel est votre point de vue sur le rôle des confessions religieuses dans le processus démocratique?
Oui, je pense que l'Église, soit catholique, protestante ou non, a un rôle important à jouer dans le processus de démocratisation, surtout pour une nation qui cherche encore comme la nôtre, où on se trouve pas mal dans la sagesse, vous le savez, une population très très mal informée, très très peu informée, et justement les politiciens profitent de ce que la population, pour une bonne part, n'est pas très bien informée, pour lui apporter n'importe quel genre de décision. Et c'est quand une population bien informée, bien éduquée, bien instruite, qu'elle sait mieux réinventer ses droits. Et comme la plupart des jeunes, une grande partie de la population tout ça, n'est pas très bien informée.
Mais vous pensez que ça peut passer par les confessions religieuses pour une information, pour instruire la population?
Je pense que l'Église et les confessions religieuses sont tout à fait en contact avec la population tous les jours. Et ils savent que notre société civile est très, très faible. Notre société civile, qu'elle soit formelle ou informelle, sa voix est presque immobile. En ce moment, il n'y a que la voix du grand roi qui a donné son jugement. Les autres organisations de la société civile ont déjà apporté presque pas. Il y a des syndicats dans le pays, on n'entend pas leur son de cloche.
Mm-hmm.
C'est pour vous dire que la plupart des ceux qui devraient parler au nom de la société civile sont, en tout cas, je pense, corrompus. Et ce n'est pas un mot fort parce que.
Mais vous pensez que par les églises, c'est plus facile. Vous pensez que par les églises, c'est plus facile d'encadrer la population?
Et absolument.
Merci Victor pour votre point de vue. Il y a Charlie qui nous a écrit de Kisangani, dit ceci en donnant son avis sur la révision de la Constitution. Le cardinal Mosemwa, c'est son travail de leader avisé. On ne peut pas lui en vouloir pour ça, car ce pays doit être reconstruit par tous les fils et filles de la RDC. Quant au rôle que doivent jouer les confessions religieuses dans le processus démocratique, on peut citer par exemple l'éducation électorale, la sensibilisation, la conscientisation de la population pour qu'elle participe massivement aux élections en faisant un vote responsable et utile, l'observation des élections en déployant leurs éléments dans différents bureaux, mais aussi la médiation en cas de conflit. Voilà ce que nous dit Charlie de Kisangani.
Parole aux auditeurs.
Radio Kati, un partenariat entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien des gouvernements de Suisse, de Grande-Bretagne, de France, de Suède, d'Allemagne et de Belgique.
Et je vous informe que déjà notre deuxième invité est au bout du fil. Il s'agit du professeur Boubou Kalala. Il est analyste politique, également professeur des sciences politiques. Bonjour professeur.
Bonjour madame.
Oui, le temps d'écouter Trifon de Lubumbashi, aussi de pouvoir lire quelques messages que nous avons reçus à travers pa@radiocapi.net. Nous allons revenir à vous professeur. Nous prenons d'abord Trifon. Bonjour.
Bonjour, madame Marie-Chantal.
Oui, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup pour la parole. Moi, je pense qu'à mon avis, les confessions religieuses ont un rôle très capital à jouer. D'abord, par le fait que ce sont des rassemblements qui sont apolitiques. Et les propos de cardinal Mosengo de tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi ça doit inquiéter les milieux politiques congolais. Nous voulons quelque chose et son contraire à la fois, à mon avis. Dans les types qui dirigent actuellement, nos dirigeants politiques, la majorité sont là en train de condamner Mobutu. Et aujourd'hui, Cardinal Mosengo a donné son point de vue comme un leader d'opinion pour éclairer la situation, tout le monde commence à réagir. Ça me rappelle la réponse de M. Mobutu au journaliste belge, où il a demandé, il a dit au journaliste, pardon, si chez vous en Belgique, les curés c'est mal de la politique, ici chez nous au Zaïre, ce n'est pas question. C'est pour dire quoi? Nous ne voulons pas que quand nous travaillons, que les autres puissent donner leur point de vue. C'est comme quelqu'un qui veut construire sa pirogue et va se cacher dans la forêt pour que personne ne lui apporte même une aide quelconque. Et après, quand on vient mettre la pirogue dans l'eau, ça noie. Le Congo, c'est une affaire de tout le monde. C'est une république, reste publique, à la chose publique. Moi, je suis désolé qu'aujourd'hui la majorité de conduire le pays comme si c'était un vélo personnel. Qu'on ne veut pas que l'autre puisse toujours conduire ça à ma manière. Ce qu'a dit Monseigneur Cardinal Mosengo, et c'est ce que doit faire la plupart des confessions religieuses congolaises. Bien qu'aujourd'hui, on trouve des gens qui commencent à être tendancieux, des gens qui commencent à être achetés par de l'argent, mais c'est décevant. La position de Cardinal Mosengo, c'est une position simple et que tout le monde doit au moins approuver. Je ne trouve nulle part où mon Cardinal Mosengo a injurié. Ou à c'est lié derrière l'opposition, la majorité. Il est resté neutre pour dire que, à mon avis, élection à un seul tour, ce n'est pas bien, parce que les candidats risquent de passer avec 10% ou 20%. Qu'est-ce qu'ils représentent pour ce grand Congo immense?
Merci, Tristan de Lubumbashi, pour votre intervention. Nous avons un message de M. Odiane Doun-Paulin, il est député provincial, il nous écrit ceci, il me semble que les hommes de l'Église sont des citoyens à part entière, de ce fait, ils ont pleinement droit d'émettre leur point de vue sur la marche du pays. Pourquoi les politiciens vont souvent vers ces gens? À titre d'exemple, la campagne sur le civisme fiscal, le pouvoir lorsqu'il est aux abois ne veut écouter personne, l'Église doit se prononcer sur la révision constitutionnelle parce que c'est une affaire de la nation tout entière, la constitution vient de deux mots latins, cum prefixe qui signifie ensemble, statuere, je pense que je l'ai bien lu, statuere le fait d'établir. Ils font un processus national autour de la révision constitutionnelle parce que ce pays n'appartient à personne, ce n'est pas le pays de l'ANP ni de l'opposition, mais de nous tous. Ce même pouvoir avait demandé au peuple de voter massivement oui à cette constitution au moment où l'UDPS disait non, il faut laisser ce texte comme tel. Ça, c'est l'avis de Odiane Doun-Paulin de la province orientale. Nous avons aussi un message de J.C. Peniel Bouamba de Kananga. Il dit la réaction du cardinal Mosengo est fondée, d'autant plus qu'il joue son rôle en tant que serviteur de Dieu de pouvoir dénoncer le mal, surtout celui pouvant exposer la liberté des possibles citoyens qui ont le droit de faire le libre choix de ses dirigeants sans influence aucune. Nous n'avons pas besoin de ces mascarades politiques car qui se sent mal, qui se sent mauvais se mousse et que la peur cède et que le plus fort l'emporte. Ça, c'est J.C. Peniel Bouamba Kananga. Et nous allons donner la parole à notre invité. C'est notre second invité, le professeur Debois Kalala. Il est analyste politique et également professeur des sciences politiques qui juste après ceci.
Parole aux auditeurs.
Professeur, vous avez suivi les avis des auditeurs, mais avant que vous puissiez réagir à cela, donnez-nous votre avis en tant qu'analyste politique du rôle des confessions religieuses dans le processus démocratique.
Voilà, merci beaucoup, madame. Il y a eu plusieurs interventions déjà sur le rôle des confessions religieuses dans le processus démocratique. Je pense que toutes les églises ont leurs responsabilités dans la conduite de leurs membres qui sont aussi des citoyens. Et donc, par rapport à cela, les églises doivent encadrer, accompagner les chrétiens. Disons, je prends l'église comme institution. Hein, donc, disons, le personnel qui œuvre dans ces églises-là, on la charge de veiller sur les brebis, comme on dit. Et donc, dans ce sens-là, lorsque les brebis, qui sont notamment des politiciens, ont des choix à prendre, parfois les bergers, les prêtres, les clergés, pensent qu'ils doivent donner leur point de vue,
pour aider ces gens-là à prendre des décisions qui soient conformes au bien commun. C'est donc dans ce sens-là que le personnel, je prends dans le cas de l'Église catholique, le cas qui vous concerne maintenant, le cardinal a fait son travail, n'est-ce pas, comme prophète aussi, hein, il doit annoncer, il doit prévenir les dangers ou des choses qui peuvent diviser. Et dans notre pays, je crois que dans l'opinion publique, on reconnaît aux églises cette place-là. Donc on pense que les églises doivent aussi donner leur point de vue. C'est pour cette raison qu'il y a souvent la tradition de les associer aux événements politiques majeurs. Et donc dans ce sens-là, on ne peut pas simplement les appeler pour les faire avaliser le choix des politiques et penser que les églises ne doivent pas donner leur point de vue lorsqu'il y a des choses qui passionnent les citoyens et qui risquent de pousser leurs membres, n'est-ce pas, à la dérive. Et donc dans ce sens-là, je pense que mon point de vue, c'est que bien qu'on dise à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César, l'Église, comme les autres églises aussi, ont leurs responsabilités vis-à-vis de leurs membres, hein, et aussi vis-à-vis de ce qui est bien commun, hein, donc l'attitude des citoyens, des hommes politiques face à l'intérêt général. Et donc dans ce sens-là, il est normal hein, que l'Église prenne position. Mais c'est une position qu'ils annoncent. Hein. Leur avantage, c'est qu'ils ont le courage, ils ont la responsabilité de donner ce qu'ils pensent. Maintenant, aux hommes politiques et aux citoyens de faire ce qu'ils veulent. Mais si les hommes politiques, après avoir entendu, refusent de suivre, ils assument leur responsabilité. Il faut que l'Église ne dise pas, qu'on ne dise pas, l'Église n'a pas joué son rôle. L'Église donne son point de vue. Que vous pouvez suivre ou ne pas suivre comme citoyen. Mmh. Et donc les politiciens ont la responsabilité parce qu'ils ont la légitimité, ils ont été élus par le peuple pour aller agir dans l'intérêt de ce peuple-là. Ce sont ces politiciens qui doivent poser leurs actes en toute responsabilité.
Mais souvent, la position ou bien ce qui est dénoncé, par exemple, par des confessions, par une confession religieuse, pardon, par une église, normalement, ça s'allie à certaines positions politiques des forces en présence. Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des préjugés sur ce que dit l'église?
Ah oui, ça peut arriver, hein. Mais dans les cas dans les cas précis ici, dans le cas de l'Église catholique, vous savez que depuis même l'époque coloniale, l'Église catholique a pris quand même position vis-à-vis de l'intérêt général, vis-à-vis de l'intérêt des citoyens. Et vous savez aussi, même par exemple, que le cardinal Malula, c'est qu'il a joué comme rôle avant l'indépendance, donc pour amener le pays à l'indépendance. Et après l'indépendance, vous avez vu aussi comment l'Église catholique, quand on prend l'Église catholique, je vois l'ensemble des évêques du Congo. Hein? Donc comment, au niveau de l'épiscopat, ils ont pris des positions à des moments très difficiles de notre histoire politique et comment ces positions-là ont souvent influencé positivement les chrétiens à se comporter de manière responsable. Donc l'impact de ces interventions-là est très très clair. Alors maintenant, est-ce que si l'Église prend des positions qui gênent une partie de la population, on peut condamner l'Église? Je crois que l'Église ne peut pas être condamnée tant qu'elle fait la promotion des valeurs évangéliques. Parce que dans la société, leur rôle, c'est ça, promouvoir les valeurs évangéliques à temps et à contre-temps, pour continuer à encourager leurs membres, qui sont très nombreux parmi les politiciens, à prendre le courage de faire le bien, de continuer à poser des actes d'amour du prochain.
Mais donc, tant que leurs actes sont posés pour l'intérêt général et non des particuliers, et surtout pour l'avenir et le social des populations, voilà ce que le professeur vient de dire. Mais vous restez en ligne, professeur, le temps d'écouter d'autres auditeurs, Ernest de Matadi, Irénée de Mbujimaï.
Parole aux auditeurs.
Avant de donner la parole à Ernest, Martinet Moussa nous a écrit à travers pa@radiocatholique.net. Le rôle de l'Église est d'éclairer la politique. Il a donné l'exemple de l'enseignement de Jésus aux couches sociales de son temps. Donc pour lui, le rôle de l'Église est d'éclairer la politique. Mais aussi cet avis de Daniel Tali, étudiant à l'UNIQI, l'Église doit jouer son rôle de neutralité en ce qui concerne la politique. Nous prenons Ernest de Matadi. Bonjour.
Bonjour, maman.
Quel est votre avis, Ernest?
Bon, moi, je crois que les amis qui m'ont précédé ont presque balayé tout ce que je pensais dire, mais je pense que l'Église catholique, je suis catholique pratiquant, nos dirigeants, nos pasteurs de l'Église ont plein droit de nous expliquer les choses. Là, le cardinal, sans les quatre gens.
Ernest, nous avons des problèmes parce que vous sortez vraiment entrecoupé. Est-ce que vous pouvez d'abord changer de position? Nous allons revenir à vous. Nous donnons d'abord la parole à Irénée de Mbujimaï. Bonjour.
Bonjour, bonjour, ma chère.
Oui, quel est votre avis, Irénée?
Bon, vraiment, moi, je suis désolé de vos compatriotes qui trouvent que le cardinal Malula n'avait pas le plein droit de s'exprimer sur l'opinion vis-à-vis de la décision de notre gouvernement. Je suis vraiment malheureux pour nous parce que, en tant que citoyen, il a tout le plein droit d'exprimer ce qu'ils sont. Vraiment, on trouve que c'est humiliant pour notre pays de s'attaquer au cardinal.
Donc vous pensez que les confessions religieuses ont un rôle important à jouer?
Bien sûr, ils ont un grand rôle à jouer, vraiment. Tant que le gouvernement est là, il ne fait rien vers la population. Les confessions religieuses sont proches de la population et comprennent les souffrances de la population. Dans ce cas, ils ont le pouvoir d'exprimer les désirs de la population. Vraiment, je suis déçu de...
Merci beaucoup, René de Mbujimaï. Nous avons Gongo Moulemba de Kikindu. Il nous écrit ceci: le cardinal Monsengo est un bon berger soucieux de la stabilité, du bien-être social, de l'élévation spirituelle, morale, physique et de la paix sociale de ses brebis. Or, il n'y a pas de paix sans démocratie. La Constitution a été révisée dans l'intérêt supérieur de la population. Personne ne serait inquiet. Or, tout observateur averti sait que la Constitution a été révisée pour satisfaire les intérêts égoïstes des membres de l'ANP de rester à vie au pouvoir. À ce jour, l'ANP est composée de beaucoup d'anciens membres du MPR Parti État qui ont dirigé le pays sans partage pendant 32 ans. Ce sont des retrouvailles pour prolonger leur dictature ininterrompue par le feu président. En bref, deux raisons expliquent leur précipitation pour réviser la Constitution. La peur d'affronter deux poids lourds de l'opposition. Et la deuxième raison, c'est de se rendre compte en retard de n'avoir réalisé même pas 10% des promesses faites en 2006. C'est Ngongo Moulemba, depuis Kindu et aussi Jean-Paul Lumbulumbu. Nous a pas dit d'où il nous écrivait. Les confessions religieuses en tant que composantes de la société civile et à la démocratie, ce n'est que l'oxygène à la vie humaine. Le rôle des confessions religieuses dans un pays post-conflit à l'image de la RDC, dans la réconciliation, la cohabitation pacifique, la mobilisation citoyenne autour des questions d'intérêt collectif, n'est plus à démontrer. L'intervention du cardinal Monsengo sur la question du système électoral, du scrutin, doit être inscrite dans le cadre de la prévention des conflits ayant comme source la crise de légitimité en RDC. Jean-Paul Lumbulumbu, on vient de faire signe, qui nous écrit à partir de Goma. Nous allons revenir à notre invité, le temps d'écouter Albert de Kinshasa. Bonjour Albert.
Bonjour Marie Chantal.
Oui, en une minute, dites-nous quel est votre avis.
Les confessions religieuses ou les pasteurs et autres prêtres sont des leaders d'opinion. Et en tant que leaders, ils ont une vision plus large que le fidèle. Et il y a un adage d'un grand penseur latin qui a dit: vous qui avez la vue, vous qui avez les yeux, que faites-vous de la vue? Puisque les pasteurs, ils sont éclairés et ils défendent les bons droits, les bons sens, la raison. C'est cette raison qu'il communique aux fidèles. Que le cardinal Monsengo ait donné son point de vue, c'est au nom du bon sens, au nom de la raison. Je me souviens du président de l'Assemblée nationale, lorsqu'il a été au sacre du cardinal, avait dit, mais si nous voulons que les cardinaux ne puissent plus dénoncer, alors ne faisons plus le mal. Alors, si aujourd'hui les gens de l'AMP se trouvent grincheux, ne se retrouvent pas dans ce que le cardinal a dit, mais c'est qu'ils doivent se moucher, parce qu'on a fait que dénoncer. L'Église fait partie du pays. Et lorsque les fidèles se tirent entre eux, lorsque nous avons, parce que je vous ai entendu parler, non mais c'est la démocratie, c'est la loi de la majorité. Non mais il ne faut pas faire la vie de la majorité. Lorsque on a la majorité et on se permettait par exemple un jour de voter une loi comme quoi les femmes ne peuvent plus faire la politique, les femmes ne peuvent plus être représentées dans des entreprises. Au nom de la majorité, est-ce qu'une telle mesure peut être prise? Non. Et les églises ont, comme membres de société civile, le droit de revendiquer. Regardez dans l'histoire les rôles qu'ont joué le pape, que ce soit en France, que ce soit en Italie, et même à Jérusalem, les rois consultaient leurs bergers, leurs pasteurs, parce qu'ils éclairent. Et l'Église, quand vous allez dans nos églises, les prédications vont toujours dans tous les sens. Donc je pense que l'AMP doit se regarder dans le miroir deux fois pour se dire que non, nous avons très mal agi parce que nous avons reculé le pays, nous avons remis en cause la démocratie, enfin la décentralisation et même l'indépendance de la justice avec les mesures, avec cette révision constitutionnelle, non seulement pour le premier tour, mais on a fait beaucoup de pas en arrière alors qu'on est appelé à avancer.
S'il vous plaît, Albert, mais quand même, vous reconnaissez que la démocratie, c'est la de la majorité, donc il revient aux individus qui forment cette majorité d'être plus consciencieux et de savoir ce que veulent en fait les peuples ou les personnes qu'ils représentent.
Effectivement, mais sans abuser de la majorité, parce que ce que nous avons constaté, c'est que justement, cette majorité, c'est un abus de la majorité, parce qu'il n'est pas permis à la majorité de remettre en cause le consensus national inscrit dans la Constitution. Parce que cette Constitution a été le fruit de plusieurs concessions, et c'est de l'ensemble des points de vue des autres qu'on a trouvé le juste milieu pour avoir cette voie. Alors, avec cette précédent. Demain, nous aurons une autre majorité qui va remettre en cause tout ce qui a été fait. Non, c'est un précédent fâcheux et nous devons barrer la route. Merci. Nous devons être guidés par le bon sens et l'Église est là pour nous rappeler toujours à l'ordre.
Merci beaucoup. Oui, on s'excuse, nous avons encore d'autres auditeurs qui veulent participer, surtout ceux qui nous ont écrit, mais n'empêche, vous avez donné votre point de vue et aussi le temps qu'on devra accorder à notre invité pour conclure cette émission. Nous lisons les deux derniers messages que nous avons reçus. Le premier de Ricky, qui nous écrit à partir de Johannesburg en Afrique du Sud. Le rôle de l'Église est majeur, d'autant plus qu'elle encadre beaucoup des futurs cadres du pays à travers les écoles et qu'elle est plus proche de la population que les politiques qui ne défendent que le pouvoir en place. Il y a aussi Jean-Marc Véco de Guémena, c'est dans l'Équateur. N'oublions pas que tous les chefs religieux congolais, à mon avis, sont libres d'émettre leur point de vue et qu'aussi beaucoup des politiciens sont membres des différentes confessions et que leurs chefs religieux ont une responsabilité morale de les rappeler si leur opinion ou action vont à l'encontre des valeurs humaines. Et le dernier, il dit ceci, nul n'a été plus explicite que le pape Jean-Paul II qui, lors de son voyage pontifical le 15 janvier 1993 en Pologne, a soutenu l'apolitisme de l'Église située, selon lui, au-dessus des partis politiques et qui est ouverte à tous les hommes de bonne volonté, aucune sensibilité politique devant s'arroger le droit de la représenter. Et voilà, nous avons essayé de parcourir tous les messages que nous avons reçus, mais vous êtes nombreux à vouloir participer, mais malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous revenons à notre deuxième invité au cours de l'émission, c'est le professeur Bobo Kalala, qui est au bout du fil, analyste politique, également professeur des sciences politiques. Professeur, en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au regard des avis des auditeurs que vous avez suivis? Professeur?
Vont tous dans le même sens. C'est le sens de dire qu'il faut que les églises restent au milieu du village, qu'ils jouent leur rôle de conscientiser les citoyens, de les inviter à prendre leurs responsabilités. Mm-hmm. Je pense que pour nous, la RDC, il est important que même les acteurs politiques qui gèrent la chose publique, n'est-ce pas, n'oublie pas que nous sommes des pays post-conflit où il faut toujours travailler dans le sens d'unir les gens au lieu d'aller dans le sens de division. Donc tout ce qui divise, tout ce qui nous divise, à mon avis, devrait, n'est-ce pas, être découragé et favoriser tout ce qui fait notre unité, ce qui fait notre force. Donc dans ce sens-là, je pense qu'il faut que les hommes politiques écoutent aussi leurs pasteurs qui ne parlent pas pour le mal, qui sont là pour prêcher simplement en faveur du bien. Donc les interpeller pour que dans leur rôle de responsable, de gérer notre vie et notre avenir, qu'ils prennent des décisions qui ont un avenir. Donc dans ce sens-là, je ne crois pas que les hommes politiques ont intérêt à se priver de ces moyens-là. Et d'autre part, vous savez que, par exemple, dans le cas de l'Église catholique, elle a toujours accompagné ses processus démocratiques.
Mm-hmm.
Et lorsque le pays était aussi divisé, hein, qu'il y avait des rébellions, l'Église est allée parler avec les autres pays amis, hein, les pays frontaliers, les églises, en fait, hein, ont beaucoup travaillé dans l'ombre pour encourager les hommes politiques à s'entendre et à signer des accords. Et donc, il ne faut pas oublier aussi ça. Parce que si ça ne marche pas, les jours où les hommes politiques commencent à se tirer dessus pour leurs intérêts personnels, on va encore compter sur ces pasteurs-là pour que les pasteurs aillent prêcher, aillent inviter les uns les autres à mettre un peu de l'eau dans leur vin. Et donc, dans ce sens-là, nous n'avons pas intérêt dans notre pays à favoriser la division, à favoriser les choses qui menacent la paix, ainsi de suite. Et donc, dans ce sens-là, vous savez, même quand il donne son point de vue, c'est toujours dans le but d'inviter les hommes politiques à regarder tout ce qui peut aller dans le sens de consolider notre démocratie.
En tout cas, merci.
C'est une démocratie fragile, j'ai une démocratie aussi, qui nécessite encore beaucoup de l'aide, beaucoup de soutien.
Merci, professeur. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et nous disons merci aussi à notre premier invité, c'était le professeur André Lubanza. Merci aux auditeurs, ceux qui sont intervenus et ceux qui nous ont suivis avec attention en FM connectés sur www.radiocapi.net. Le thème de demain, le soulèvement des étudiants de l'université de Kinshasa le jeudi dernier, ils revendiquaient l'amélioration des conditions sécuritaires sur le site universitaire suite à la mort de deux étudiants sur le campus en moins de deux semaines. À votre avis, que proposez-vous pour améliorer la sécurité sur le site universitaire? Vous pouvez réagir dès à présent en nous écrivant à l'adresse internet pa@radiocapi.net. Merci à Christine Poutou, à Pierre Lamégie, sans oublier Alain Ngoï. À demain.